C'est parti. Bonsoir à tous et bonsoir à vous, Frank Smith.
Bonsoir.
Merci d'être à nos côtés pour cette 20e émission de Radio On. Une émission qui aura de la voix. Et pour cause, notre thème ce soir est la...
Voxifération.
Oui, vous avez bien entendu.
La voxifération, mot compte double, en 12 lettres.
Le fil de l'émission ce soir sera constitué de fines particules sonores et poétiques qui viendront se déposer tantôt avec délicatesse, tantôt avec force, le long de notre conversation avec notre invité d'un soir, Frank Smith.
Vous avez raison d'être à l'écoute de Radio On. Ce soir, vous êtes sur la bonne voie.
Alors commençons sans plus attendre avec trois belles créations sonores. Tout d'abord celle de Wendy Autric, qui nous fait part de ses angoisses quand les peurs se multiplient et forment un trop-plein dans un vide tranquille. La pièce se nomme « Thérapie d'une angoissée ».
Il est question d'héroïne pour Youfou. Héroïne dans les deux sens, dit-il. Un poème qu'il a écrit portant sur le trouble entre l'hallucinogène et la femme.
Tandis que Valentin Alizère nous propose une poésie sonore teintée d'absurde avec la contrainte d'un usage maximal du son F à conjuguer, jeu de répétition et fallacieuse fourberie.
J'ai peur du vide.
Vide.
J'ai peur du plein.
Plein.
Du plein qui se vide.
Vide,
du vide qui se plaint de mes peurs.
J'ai peur.
J'ai peur de la mort.
Mort.
Peur de la mort.
Peur de la
peur de la vie.
Accident.
De la vie qui me peut.
Peur de la mort.
Accident.
Peur du temps.
Temps.
Du temps.
Toi qui
me rappelle
quel point.
Qui me rappelle quel point.
J'ai peur de la
peur de la
peur de la mort.
Peur de la mort.
Mais lui.
J'ai peur du vide.
J'ai peur du plein.
Vide.
Plein.
J'ai peur du plein.
Du vide.
Du plein qui se vide.
Du vide qui se plaint de mes peurs.
J'ai peur de la mort.
De la mort.
Mort.
J'ai peur de
j'ai
la
peur
vie.
De la vie.
De
j'ai peur de la vie qui me fait peur.
Accident.
Accident.
J'ai peur
de temps. Temps.
Temps.
Temps.
Temps qui passe.
Passe.
Qui me rappelle à quel
qui
point
me
j'ai peur de la vie. Qui se plaint de la peur de la mort.
De la peur
mort.
De la mort.
La mort.
Vide.
Le vide.
Et du plein qui se vide.
J'ai peur.
Héroïne. Je n'ai jamais pris l'héroïne comme sans pied dans ma bouche. Je n'ai jamais été héroïne comme ma mère n'était pas mon père. Un jour, à l'enterrement de Saad, l'héroïne m'a dit « Je t'aime so much. Enlève mes chaussures rapidement. Elle approche mon visage doucement. Je sens bien son cou sucré et ses poils d'étincelles s'acquittent. Héroïne, vous êtes si sexy comme ma mère hier soir. Elle commence à sucer mon petit doigt. Je vais y arriver. Un gros claque sur mon visage. Salope bitch. Mes pieds sont dans ma bouche. Oh, ma lady héroïne. Ne te couche pas trop tard chez Gainsbourg. Is it?
toute belle. Oh my lady héroïne, ma liaison clandestine, en douceur mon sucre candy, emmène-moi au paradis.
Il faut faire la foire aux fausses fleurs fanées par le feu des phallus de fou de Foufoune qui feigne l'affaiblissement du foot. Feu, feu, les futés, les effalacieux farfadets s'en foutent. Suffit-vous pour la fête au phare de Francfort. Faut fort ces fanatiques français s'en foutent de la touffe des bougnoufs. Bref, pif, paf, pouf, les foot taf. Le staff de la fédé de foot des familles fait fuir les fumeux phallocrates. Taf, taf, la femme franche, femelle de Florence, formule les faits. Les Finlandaises ont baffé les baffles. Les buffles bouffent les fous des fausses féministes finlandaises qui font fondre les fleurs par le feu des phallus se fous de Foufoune qui feignent l'affaiblissement du foot. Fous de foutre sont les faits de foutre. La femme fermière s'affaire à filmer le fantasme du furet fou. En effet, en forêt, le forban fourre la fermière qui fend les fesses du furet de son phallus se fout de Foufoune. Le fromage feint l'affaiblissement du foutre. Il faut frapper le fer fumant, maroufler le fer sur le fromage et confesser le furet fou. Fou, fou est le flic fictif qui flaire, puis efface le foutre et le fromage de la fourrure du frère de Félix. Fichtre et foutre, les fallacieux farfadets coiffent le furet fou. Farfurelle pose les fleurs fanées du feu de son phallus de fou de Foufoune qui feint l'affaiblissement du foutre.
Bonsoir, merci d'être avec nous, Frank Smith.
Merci de m'avoir reçu.
Je, arrobas toi, pas je et toi, mais zigzag poésie, pas poétrie. Je pense à toi, Frank Smith, je pense à toi. Le cas de le dire. Dans Los Angeles, à Guantanamo, Gaza, d'ici, là, ce sont des états de fait. Et vous ne pourrez rien y changer. Ce sont des états de fait. Des états de fait. Vous voyez, vous me voyez venir, Frank Smith. Tel est le titre de votre livre, paru aux éditions de L'Attente en 2013. Saviez-vous que les premiers mots de votre livre étaient « On dit, j'ai vu, j'ai tout vu ». Moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est « on dit », repris 70 fois. Rien que ça.
J'ai ça commence... compté.
Comment ?
Je n'ai pas compté.
C'est de source sûre. Ça commence donc par un « on dit ». Mais ça aurait pu commencer par « on dit que vous vous appelez Frank Smith ».
Il paraît.
On dit que vous êtes né en 1968. On dit que vous êtes un producteur de radio, un écrivain et un auteur de poésie. On dit que vous avez habité la maison de la radio, seulement par la présence de votre voix. On dit que vous avez coordonné l'atelier de création radiophonique de 2001 à 2011 avec Philippe Langlois sur France Culture. On dit que vous êtes directeur, fondateur de la collection Zagzig de livres et de CD. On dit que vous avez dirigé deux anthologies de la poésie contemporaine aux éditions Autrement. En 2001, Zigzag Poésie, Forme et Mouvement, L'Effervescence et Poétrie, 40 voix de poésie contemporaine. On dit que vous avez collaboré au journal L'Impossible. On dit que vous avez animé la rubrique Poétrie pour nonfiction.fr. On dit que vous êtes l'auteur de fiction et documentaires radiophoniques. On dit que vous faites de nombreuses interventions publiques. On dit même que vous êtes actuellement sur Radio On. On dit que l'on va vous donner la parole d'un moment à l'autre. On dit que vous allez dire quelque chose, incessamment sous peu. On dit des choses que l'on oubliera. On dit à 9h et pas avant. On dit à log. On dit à log de sourd, mais que l'on s'entende bien, on ne juge personne. On dit si peu, n'est-ce pas assez? On dit ctaphone. On dit fuse. Une fois par mois, en direct, à partir de 20h30, le jeudi, sur www.radio-on.org. On dit « gère », tant bien que mal. On dit « graisse », comme on aurait pu dire « elle a la peau sur les os ». On dit « cerne », œil, paupière, cils, sourcils. On dit « sperce », dans le fil rapide de la conversation des mots, des sons que l'on ne sait plus très bien où tout a commencé, si bien tenté qu'il y ait un début. On dit « se continue ». Mais savez-vous ce que l'on fait depuis le début, Frank Smith?
On disjoncte.
Presque. Mais vous savez ce que l'on fait depuis le début, Frank Smith. On dit scute.
On est engagé dans une bataille féroce pour le contrôle de la ville pétrolière de l'Est. On perçoit avec un bruit sourd des explosions sur la route du Nord. On lutte sur les lignes du front contre des tirs de grenades propulsés par fusées. On veut que le pays soit libre. On ne peut pas décrire l'ampleur de la violence commise. On ouvre le feu avec des gaz lacrymogènes et avec ce qu'un témoin décrit comme des balles réelles. Disperse les manifestants qui se rassemblent après la prière du midi. On scande des slogans. Défie la tentative des autorités de verrouiller la capitale. Lance des pierres sur les forces de la milice. Mais on fait crépiter des armes automatiques en plein cœur de la foule. Mais on tire. On blesse deux infirmiers qui tentent de récupérer un corps. Mais on se dit même prêt à utiliser la force létale sans discernement. On perd l'espoir que les manifestations pacifiques puissent faire bouger le dictateur. On dit qu'il est facile de tuer quelqu'un ici. Je l'ai constaté de mes propres yeux.
Ça continue avec vous, Frank Smith, et avec ce son inquiétant qui est donc un fragment sonore, justement, d'état de fait. Pourrions-nous revenir justement sur État de fait? Alors, je parlais que c'était un livre, tout au début, puis là je parle d'un seul coup d'une pièce sonore, radiophonique. Alors, j'ai lu que votre texte était une commande de France Culture. Ma question va être toute simple. Est-ce qu'État de fait est un texte écrit pour la radio? Et même, est-ce que le texte est premier, ou alors ça a été la pièce radiophonique?
Alors, c'est une commande de France Culture au départ. Il se trouve que j'écris à voix haute et que, voilà, ayant eu de multiples activités au sein de la sphère radiophonique, je suis amené à conduire des textes et à les porter dans ce qu'ils ont aussi comme comme registre et comme puissance sonore, vocale. Voilà, j'écris à voix haute et la dimension sonore, la dimension théâtrale, la sortie du livre m'intéresse. Donc le travail d'écriture s'est fait à la fois dans la visée d'une pièce radiophonique et aussi d'un livre.
D'accord. Donc finalement, écrit quand même malgré tout pour la radio, pour cette...
Ben c'est une pratique conjointe.
Ouais.
Comme on l'a entendu, je ne disperse pas un texte à travers une série de personnages qui incarneraient des voix très identifiées. Tout ça est mêlé dans une masse de voix. Et donc je conduis ce travail d'écriture dans l'idée que ce sera porté à la radio. Mmh. La dimension sonore et musicale et rythmique du texte m'importe. Et voilà, tous les textes que je conduis, j'espère qu'ils ont cette puissance en eux du sonore et du radiophonique.
D'accord. Et est-ce que c'est un choix justement de pas avoir mis avec ce livre un CD justement de cette pièce ?
C'est lié à des concordances de temps diffractées et disjointes. On diffracte, on disjoint. Et donc le livre est sorti avant que la pièce a été réalisée.
Oui, parce que la pièce est en printemps 2013 et le livre, c'est mars 2013. Donc oui, finalement, ça s'est joué à,
oui, voilà,
à très
donc,
peu.
Donc on avait beaucoup attendu que la pièce radiophonique soit réalisée et l'éditeur a choisi de finalement sortir le livre sans le CD puisqu'on aurait attendu encore plus longtemps.
D'accord. Alors j'ai écouté donc la pièce radiophonique.
Merci.
Je vous en prie. Calmement, tranquillement, tout en suivant en fait les passages dans le texte. Alors on commence d'un seul coup directement par le texte 2, et puis il arrive parfois qu'on saute d'un seul coup à un autre. Alors vous appelez plutôt ça des séquences,
oui,
pour le coup. Et puis parfois il y a des mots qui ont été changés, les pronoms de « e », de « on » par exemple, qui sont toujours impersonnels, comme vous le dites, deviennent « je » parfois. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est avec le réalisateur que vous faites ces modifications-là?
Alors pas du tout. En l'occurrence, c'est que je ne me suis pas mêlé de la réalisation d'Alexandre Planck. En général, je ne souhaite pas interférer. J'ai écrit un autre texte qui s'intitule « Guantanamo » qui a été porté au théâtre. Et Eric Vignier, qui l'a mis en scène, c'était clair avec lui que je n'intervenais pas. Et voilà, donc j'ai conçu ce texte. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes dans l'écriture de ce texte. Donc finalement, la version livre, qui est la version que je considère comme étant définitive, est une version post-radio. Donc il y a peut-être effectivement des effets de différences, des distinguos. Enfin bon, la matière première est quand même très présente.
On n'est pas formé ni organisé. On n'a pas reçu d'apprentissage en Russie ou ailleurs. On ne saurait comment utiliser des armes même si on en disposait. On ne constitue pas une armée. On est le peuple. On se retire à l'est, le long de la route côtière, dans des dizaines de camions équipés d'armes lourdes. On essaye d'établir un nouveau front défensif. On est le peuple. On dit apprécier la reconnaissance du jeune gouvernement. On chante depuis le minaret d'une mosquée. On scande, quand vous êtes du côté de Dieu, Dieu vous soutient. On est le peuple. On applaudit le leader. On tire des pièces pyrotechniques. On est le peuple. On distribue des sacs de riz, des bouteilles d'huile d'olive, des boîtes de conserve. On est le peuple. On adoucit les marques de résistance. On met en garde contre toute précipitation à imposer un tel espace d'exclusion aérien sans soutien international large. On est le peuple. On travaille avec l'opposition. On travaille avec le peuple.
On est le peuple. Voilà ce qu'on entend répéter à plusieurs reprises. J'ai choisi ce morceau-là parce que je trouve que c'est un morceau qui a été assez fort. Il arrive presque au milieu, finalement, de cette création sonore. Et puis, c'est aussi cette voix, en fait. C'est la voix d'une femme qu'on entend, en fait, une sorte de monologue. Et il y a vraiment un travail aussi plastique, sonore, qui a été fait dans toute cette composition. Est-ce que vous aussi, vous avez apporté des éléments? Est-ce que vous avez, non du tout, laissé libre cours à l'imagination d'Alexandre Pope?
Non, j'ai livré la matière texte et l'idée c'était que Alexandre en face, j'avais totalement confiance en son travail et voilà, qu'il s'en empare. Et je pense que moi, si j'avais réalisé ce travail, je l'aurais manié autrement sans doute. Là, il était tout à fait libre de choisir cette comédienne. Il y a tout un traitement sonore assez riche tout au long de la pièce. C'est lui qui en est le maître.
Qui crée justement une ambiance qui est inquiétante, qui est même lourde au bout d'un moment, qui est pesante aussi par... c'est pas du tout une remarque négative, mais c'est vrai que en lisant d'abord le livre et ensuite en écoutant la pièce, il y a vraiment, les deux en fait se rejoignent vraiment. Enfin, on sent que le texte parle d'un conflit qui est celui du conflit libyen, et on sent qu'il y a, voilà, par l'écriture et d'un seul coup par le son, on arrive d'un seul coup à sentir les choses et à sentir une forme d'oppression, même si à chaque fois, comme je l'ai dit plus tôt, il y a cette forme impersonnel, ou non, enfin, même les noms propres ne sont pas écrits. Il y a une distance. Néanmoins, on se sent au cœur en fait de cette action qui nous encercle.
Alors oui, il faut dire que c'est un texte qui donc s'intéresse au conflit libyen que j'ai suivi tout au long des événements en suivant des articles de journaux parus dans la presse française et anglo-saxonne. Donc j'ai fait des prélèvements à l'intérieur de ces différents articles au jour le jour, articles qui traitaient des mêmes événements, mais dans des langues différentes. Ce qui m'intéresse, c'est de questionner les langues, et la langue médiatique, en l'occurrence, dans ce cas de figure. D'où l'usage de phrases relativement courtes, qui ont une efficacité rythmique, musicale, et dans lesquelles j'ai finalement coupé le sujet de la phrase. C'est vraiment un travail de grammairien, en quelque sorte, en remplaçant ce sujet manquant par la figure du « on ». Alors le fait de commencer toutes ces phrases, qui sont comme des espèces de « ready-made », on pourrait dire poétiques, par le « on », impersonnel dans la langue française, crée une sorte de flou généralisé et on ne sait plus qui parle, et c'est ça qui m'intéressait, on ne sait plus qui parle des trois instances en puissance et en jeu à l'intérieur de ce conflit, à savoir l'instance pro-Kadhafi, donc le régime en place, l'instance révolutionnaire, les rebelles, et puis la troisième instance qui était la force d'intervention de l'OTAN. Et le travail radiophonique a été mis en place par Alexandre Planck en utilisant une seule voix également pour ces trois prises en charge, trois acteurs, enfin trois voix actrices dans le film à l'intérieur d'une seule voix de comédienne. Est tout à fait en cohésion avec ce que j'ai voulu trafiquer.
Alors on le rappelle justement, cette pièce radiophonique réalisée donc par Alexandre Planck, mais la matière première est de Frank Smith. Actuellement, elle est toujours audible sur le site de franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture.
Je vous rassure, chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio On, un jingle que vous avez dû entendre assez régulièrement, Frank Smith.
Oui, c'est la voix de Coco.
La voix de Coco. Mais alors, qui est Coco?
C'est la voix de France Culture qui annonce les émissions. C'est la speakerine, on pourrait dire. C'est un vieux terme que j'emploie, mais voilà, c'est la voix de France Culture. Elle s'appelle Colette.
Et alors justement, cette voix, elle est juste avant, parfois, les ateliers de création radiophonique qu'on entend. Alors on va faire un petit jeu ensemble. Et oui, Frank Smith, comme on a coutume de faire ici, on aime bien les quiz. Et justement un quiz d'ACR. Alors on va pas les écouter en entier, parce que sinon je pense qu'on déborderait du désert.
Il faut que Philippe Langlois me rejoigne parce que je vais être perdu.
Ah oui, mais il va tricher parce que c'est lui qui m'a donné la matière première. Alors on va écouter tout de suite une première ACR, quelques minutes, et puis on en parle juste après.
Terre de monter la garde, résolu. Ne craignez pas la foule des assaillants, un dieu nous fera vaincre. Moi, j'ai dépêché des guetteurs, des éclaireurs vers le front. Je suis sûr qu'ils n'y vont pas en vain. Instruit par eux, je ne craindrai point de surprise.
Point Charlie à la Friedrichstrasse, c'est le seul point de passage pour étrangers entre la zone occidentale et la zone soviétique. Là, eh bien, il y a pas mal de personnes qui sont rassemblées. Au point où nous sommes, on ne laisse accéder que les militaires français, britanniques et américains, les journalistes et les étrangers. Les Allemands de l'Ouest, les Berlinois, eux, sont tenus à l'écart, une quarantaine de mètres en retrait à peu près derrière nous.
La route de la liberté est coupée à Berlin depuis 6 semaines, depuis le 13 août exactement. C'est ce matin-là, à l'aube, que Pankow a mis en place la muraille de Berlin, qui coupe maintenant en deux l'ancienne capitale de l'Allemagne. Le 12 août, plus de 3000 réfugiés passaient encore de l'Est à l'Ouest. Sans grande difficulté, il leur suffisait de prendre le métro ou de passer tranquillement les mains dans les poches. Aujourd'hui, choisir la liberté à Berlin est un exercice de plus en plus dangereux et de plus en plus rare. Pourquoi ? Parce que les trous de la muraille de Berlin sont maintenant bouchés de plus en plus hermétiquement.
Et devant nous, c'est le mur. Un mur qui est coupé là par une double barrière rouge et blanche, la barrière douanière habituelle. Et au moment où nous sommes ici, on attend d'un moment à l'autre.
Est-ce que la mémoire vous revient, Frank Smith ?
Alors la mémoire me revient absolument, c'est un travail que j'aime beaucoup, qui s'appelle le centre vide, et ça démarre, en tout cas dans l'extrait, par un extrait d'une tragédie d'Eschyle, dite par Anémone. Et ça me faisait très plaisir d'aller chercher la voix d'Anémone, qui n'avait jamais fait de radio, et de la confronter à un texte sur lequel on n'attend pas du tout, lire un extrait d'une tragédie guerrière d'Eschyle, qui est mise en rapport avec cette notion de centre-vide, où il est question du centre-ville détruit de la ville de Beyrouth, du centre-ville partagé entre Est et Ouest à Berlin. Et on a fait tout un travail quasiment d'architecture sonore pour à la fois décomposer, disjoindre, créer des ruptures à la fois dans les matières littéraires, les matières textuelles, et tout un tissu sonore qu'on a découpé à volonté. Il y a d'autres fragments plus tard où deux voix s'interpénètrent, et on a joué en découpant, alors là aussi comme des sortes de moulages, en fait, de matière texte, pour créer une sorte de polyphonie disruptive, je dirais.
Eh bien, très bien. On passe au deuxième ?
Allons-y.
Un homme et une femme sont dans un bar. L'homme s'appelle Jack, la femme Phyllis, le bar, le néon écarlate. Phyllis demande à Jack s'il pense qu'il y a quelque chose entre Sharon et Brad.
Jack, tu penses qu'il y a quelque chose entre Sharon et Brad ?
Jack dit qu'il ne sait pas, que peut-être, oui, par le passé, y a-t-il eu quelque chose ?
Je ne sais pas. Peut-être, oui. Je pense qu'il y a eu quelque chose.
Phyllis demande ce qui lui fait dire cela.
Qu'est-ce qui te fait dire cela, Jack ?
Jack dit qu'il ne sait pas. Il soupire. Jack dit que c'est la manière dont Brad regarde Sharon. La facilité de leur conversation. Que manifestement, Brad et Sharon sont très à l'aise ensemble.
Tu sais, je vois bien que Brad et Sharon sont très à l'aise ensemble.
Phyllis dit à Jack que, contrairement à ce que l'on prétend en général, un homme et une femme peuvent être de vrais amis.
Oui, mais Jack, un homme et une femme peuvent être de vrais amis.
Jack dit que c'est possible, en effet, mais pas quand cet ami ressemble à quelqu'un comme elle, Phyllis.
Pas quand cet ami te ressemble.
Phyllis remercie Jack. Phyllis dit que cela la touche beaucoup, ce que Jack vient de lui dire.
Cela me touche beaucoup, Jack, ce que tu me dis là.
Jack se dit qu'après tout, Phyllis doit avoir raison. Il se pose trop de questions. Phyllis est d'accord avec lui.
Tu sais bien que Brad et Sharon sont devenus proches à la mort de Cassie.
Dit Phyllis à Jack. Jack le savait, lui aussi. Phyllis s'évertue à faire comprendre à Jack que c'est normal que Brad et Sharon soient amis. Phyllis dit qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat.
Il n'y a pas de quoi fouetter un chat,
dit Phyllis à Jack. Elle lui demande comment peut-il penser que Sharon le trompe.
Non, ce n'est pas possible,
dit Phyllis à Jack. Jack dit qu'il est tout le temps sur la défensive ces temps-ci. Que c'est parce que David Shaw l'a prévenu que durant la campagne sénatoriale, il se devait d'éviter tout scandale.
Phyllis, Jack, on passe d'un registre à l'autre, Frank Smith.
Carrément. Alors, une commande d'un texte de la part de Laure Limongi et Emmanuel Rabu, qui ont créé une revue qui s'appelle Série, pour les éditions Léo Cher, et qui ont demandé à des auteurs de traiter d'une revue de télévision, d'une série de télévision, pardon. Et donc, je me suis intéressé au Feu de l'amour. Alors, j'ai fait tout un travail de cut-up entre différentes scènes retranscrites des Feux de l'amour. Et j'ai évidemment joué avec tous les canons de la fiction télé, je ne sais pas comment l'appeler, sirupeuse, larmoyante. Et ça donne au final, aussi dans la réalisation, il s'agissait en fait de reprendre tous les canons de cette fiction télé, dans ce qu'elle a de plus sirupeux, encore une fois. Et aussi de traiter de cette, j'ai l'image d'une espèce de sauce qui dégoulinerait en fait, la sauce de la télé en fait, hein, qui envahit tous les plateaux qu'on traverse. Et je voulais aussi que sur le plan sonore, il y ait comme ça une sorte de rivière, de courant d'eau complètement artificiel. Et je me suis beaucoup amusé avec cette voix off, à annoncer ce qui allait se passer et à, dans les dialogues, de manière rétrospective, confirmer ce que la voix off annonçait. Et donc,
ce qui fait qu'on n'avance pas tant que
on avance absolument
pas. On fait un peu
pas.
Du surplat.
Voilà, c'est du surplace. Puisque on est dans l'anticréation, les Feux de l'amour, il y a eu je sais plus combien de milliers d'épisodes, donc un épisode chasse l'autre, et je me suis beaucoup amusé à essayer de comprendre les arcanes de la construction de ce genre de produit et de le traiter un peu à la manière ironique à la radio.
Et c'est très drôle, on le savoure. Alors le titre est justement L'amour en feu.
Bah oui, j'ai inversé, oui.
On passe au troisième maintenant.
Mais je n'étais pas dans l'organisation. J'étais petite fille. J'étais le tout premier power à Odanak. Je me souviens. Il faisait ce temps-là.
Ah ouais.
Un peu plus vieux. On ne savait pas si on devait fêter ou pas, si on devait se mettre nos costumes traditionnels ou pas, parce qu'il y avait beaucoup de plumes à l'époque.
Oui.
Puis il y avait de la musique, il y avait de la fanfare, il y avait...
Parce que déjà, à l'époque, c'était un rassemblement. On fêtait avec les autres nations aussi.
Oui, on fêtait avec les autres nations. On avait invité les autres nations à venir fêter avec nous notre troisième centenaire de présence à Odanak.
Tu as dit il y avait beaucoup de plumes à l'époque. C'est vrai, on en voit moins maintenant. Il y a M. Martin qui est arrivé avec sa coiffure de plumes tantôt, mais c'est vrai qu'on en voit moins. Pourquoi? Pourquoi ça a changé?
Ça a changé parce que il y a eu toutes sortes d'évolutions. Je pourrais parler de différentes choses, mais disons que dans les 50 dernières années, les gens, il y a tout un côté de personnes qui sont allées vers les parois où il y a encore beaucoup de plumes, où on fait des spectacles, où on fait des compétitions. Mais il y a tout un côté plus traditionnel qui ont fait des recherches pour se rendre compte qu'avant les plumes, il y avait autre chose. Okay. Alors les plumes, c'est un emprunt culturel qu'on a aimé, qu'on a adoré, qu'on a porté, puis que les gens, beaucoup les gens de l'extérieur appréciaient parce que c'est de la couleur, c'est beau, mais ça ne nous appartient pas comme peuple abénaki.
À qui? Emprunté à qui?
Emprunté aux cultures de l'Ouest.
Okay.
Hein, les fameux western, bon, alors tous les gens qui voyaient les Indiens voulaient voir des plumes parce qu'ils voyaient les plumes western. Alors, le western, ça dit west. Oui. Et donc, les gens portaient ces panaches-là, puis on peut pas les dénier, ils sont là, puis il y a encore des gens qui sont fiers de porter ces coiffes-là. C'est bien, ça fait un lien avec l'histoire, mais en même temps, il y a tout un courant de gens qui ont dit, nous, ça nous ressemble pas, donc on n'est plus populiste, mais on va retourner à plus qui est identitaire à Abénaki. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit moins de plumes aussi.
Au Danak, habituellement, vous êtes combien?
À l'époque, on était 300. Okay. Aujourd'hui, la population a augmenté, les générations se sont succédées, il y a plus de métissage, et il y a des gens qui sont plus ou moins, qui se sentent plus ou moins attirés par tout ce côté culturel. Alors ça, c'est normal aussi, mais c'est pas une perte, parce que moi, je dis que les gens qui sont impliqués à fond, et c'est des gens qui sont impliqués dans la transmission. Alors qu'avant, on s'inquiétait pas de la transmission, on se faisait naturellement dans les familles. Tandis qu'aujourd'hui, les gens sont impliqués et dans la transmission aussi.
Et t'es pas inquiète de ça? Parce qu'il y a peu d'écrits dans la plupart des...
Il commence à en avoir. Il y a des auteurs abénaki, il y a des auteurs autochtones maintenant. C'est de la nouveauté. On n'avait pas ça avant. Il y a des médias, là. Vous êtes les radios, on a des radios autochtones. On a un réseau de télévision autochtone. Ouais. On a des choses qu'on n'avait pas avant. Donc moi, je suis pas inquiète. C'est sûr qu'il y a des efforts à faire. Il faut les faire. Et puis, on commence pas à faire des efforts quand les gens ont 14 ans. Il faut commencer quand ils ont 3 ans, 2 ans, à faire les efforts.
Comme la petite Nicole qui était impressionnée par la fête il y a 50 ans.
Elle a tombé dedans, puis elle continue.
Continue d'être motivée et passionnante à écouter. Merci beaucoup, Nicole.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Tout bouge, tout bouge. Toutes les couleurs du ciel du Québec. La rivière, la chaleur... On sent que cela ne s'arrête jamais. Le monde ne s'arrête pas à Odanak. Il commence. C'est ici l'initiation d'un monde en devenir. Ici, en cette fin de semaine de juillet, c'est l'ouverture totale chez les Indiens Abénakis d'Odanak. C'est ouvert à l'infini. Étendu de terre, étendu de ciel, étendu de forêt et de mots. Il y a beaucoup de monde à cette fête. On mange, on danse. Des couples arrivent en se tenant la main. Des airs sérieux et souriants. Et toujours une grande fierté. Le temps s'étire. Je suis bien ici, à Odanak, avec les Indiens Abénakis. On respecte nos opacités réciproques. C'est rare. Entraîné au cœur de l'humain, à Odanak. Les gens accueillent d'autres gens. On est curieux, on est amusé. On ne s'est pas revu depuis l'année dernière, la fête précédente. On vient, empressé, de partout. C'est le Powo. C'est beau, c'est vivant. On offre de la bière, des alcools peu forts, du coca. Bien sûr, quand je m'adresse à eux, certains en viennent à se plaindre quand même de la situation. Un territoire trop exigu, un racisme encore flottant, des richesses empêchées. Mais au fond, ils n'en veulent à personne en particulier. Au gouvernement, oui, mais pas à leurs voisins blancs de Pierreville, à leurs voisins blancs de Dumonteville, à leurs voisins blancs de Saint-François-du-Lac.
Natif des cantons de l'Est. Et puis, mon grand-père, par contre, venait d'ici. Puis, c'est ça, à un moment donné, quand on a été statué, à ce moment-là, j'ai voulu connaître un peu plus l'endroit où mon grand-père restait. On est revenu ici. Depuis ce temps-là, on s'est installé ici. Puis on a tellement aimé la place qu'on s'est installé définitivement ici.
Qu'est-ce que vous faites pour vivre ici?
Ben moi, je suis programmeur. Programmeur en informatique. Fait que je faisais déjà plusieurs places dans la province de Québec. Même ici, on est plus centralisé. Par rapport, si on regarde géographiquement, Danac est bien situé. T'es proche, t'es peut-être à 1 heure, 1 heure et quart de Granby, t'es peut-être à 2 heures, 2 heures et quart de Québec. Fait que t'es vraiment bien centralisé, là.
Il y a un esprit de solidarité entre les...
Oui. J'aime bien ça. C'est spécial. Les gens te saluent, tout ça. C'est vraiment... T'arrives ici, c'est déjà chaleureux en arrivant, là. C'est pas... Tu sens pas d'animosité ou quoi que ce soit, là. Je veux dire, les gens sont contents que tu arrives, que tu sois là. Ils viennent te voir, ils viennent te rencontrer.
Et les relations avec les populations aux alentours, la ville de Pierreville, etc., comment ça s'entretient?
Ça se côtoie très bien. Tu vois pas de différence. Les gens font pas de différence, qu'on soit autochtone ou pas, là. C'est vraiment, là... Il y a beaucoup de Blancs aussi qui sont installés, ça réserve. Il y a beaucoup d'Autochtones qui sont avec des Blancs, qui restent, que leurs conjoints sont Blancs. Puis, fait que ça, c'est... Non, ça s'immédie assez bien, là, les deux... les Autochtones avec les Blancs.
D'ailleurs, enfin, même physiquement, ça se voit pas.
Non, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Il y a beaucoup de gens qui restent surpris quand je leur dis « Je suis Autochtone ». Ah oui!
Pendant tout l'entretien, j'ai le sentiment d'avoir déjà rencontré Mario. Ensuite, je me dis non sûrement pas, mais plutôt, c'est comme si Mario se tenait en même temps là et ailleurs, comme s'il pouvait être à la fois en gros plan et en retrait, légèrement séparé. Je crois à tout ce qu'il me dit, sur le bout des lèvres. Il me paraît effarouché. Il ne me dit pas ce qui, dans la vie, l'a rendu sauvage.
Je ne me permettrai pas de prendre l'accent québécois, Frank Smith, pour vous demander tout simplement de me parler de cette pièce.
Alors, c'est un documentaire réalisé à Odanak, qui est une petite ville habitée par... En fait, c'est un territoire plutôt, assez minuscule, coincé entre deux rivières, et qui a la particularité de contenir une communauté d'Indiens. Je dis contenir parce que c'est un territoire octroyé à une population d'autochtones, comme on dit au Québec. Et ce travail consacré à cette population indienne qui s'appelle les Abénakis venait en contrepoint d'un précédent travail réalisé sous forme documentaire également en Louisiane, également sur... une sorte de morceau de terre au fin fond des bayous sur l'île de Jean-Charles qui habite là aussi quelques centaines d'Indiens. Alors ce ne sont pas les mêmes origines, mais je m'intéressais à voilà, essayer de trouver des passerelles entre d'un côté les autochtones américains de Louisiane et les autochtones du Canada.
Alors vous vous intéressiez et vous participez aussi à cette création, ce documentaire, puisqu'on entend votre voix à l'intérieur.
C'est-à-dire que chaque fois que j'entreprends un travail radiophonique, je me pose des questions sur le plan de la forme. Et il m'apparaît important de donner la parole, en l'occurrence, à des sans-parole, à des sans-voix. J'ai fait un travail aussi sur les camps palestiniens du Liban, où voilà, il était question de tendre un micro. Mais il y a des configurations à l'intérieur de ces paroles recueillies qui m'intéressent de fixer à travers une voix off que je prends en charge pour... j'espère donner une coloration, donner une sorte de puissance à la parole enregistrée. C'est une voix off qui, elle aussi, commence souvent par « on ». Alors même s'il est question comme ça d'un petit producteur de France Culture qui se balade, c'est depuis cet individu-là essayer de gagner encore, en augmentation de corps, en augmentation de voix, pour faire entendre, pour faire écouter ce qui se passe dans le monde. Et là, dans le monde des minorités indiennes qui sont spoliées aux États-Unis et au Canada.
Le titre de ce documentaire, Quelques Abénakis.
Voilà.
On écoute le quatrième et dernier extrait, fragment sonore des ACR. À vous de jouer.
Je retrouve Christophe sur sa terrasse. Dehors, le ciel est courbe, éloigné.
Ça dépend que je viens ici pour les après-midi. Pas tous les jours, mais de temps en temps, je viens ici à garder ça là, ici en arrière. Mon grand-père, il était un piégeur. Il attendait ses trappes. Regarde le lapin là-bas. Tu vois? C'est pas bon les manger à ça parce qu'ils sont pleins de verre. Mais moi, j'aime pas trop les tirer parce que c'est joli à voir. So, I mean, si tu tues tout, tu vas pas avoir à rien. So, c'est bon si tu les quittes tranquille, tu connais? C'est bien joli. Moi c'est un tête d'or quand le soleil a fait se poser. Ça, c'est joli pour voir parce que tu as toutes les couleurs et dans le ciel, tu connais? C'est rouge, c'est orange, c'est jaune, tu connais? C'est bien joli pour voir.
Et maintenant, Frank Smith, cette dernière est courte. Enfin, ce dernier même est court extrait sonore. Qu'est-ce qui vous évoque ?
Ben je suis ému d'entendre cette voix. Quand on fait de la radio, on est évidemment sensible au son et au corps qui émarge derrière une voix. Et cette voix, c'est celle donc de Christophe Brunet, qui est un monsieur aujourd'hui d'une cinquantaine d'années qui vit sur une chaise roulante. Sur un territoire d'Indiens descendants des Biloxi, Chitimacha, Choctaw, sur l'île de Jean-Charles. C'est à 2 heures au sud de la ville de Houma, qui est elle-même à 2 heures au sud de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Et Christophe Brunet, je l'ai rencontré une dizaine de fois au cours de différents voyages. Me touche énormément parce que j'ai l'impression qu'il est la poésie faite homme. Au cours d'une conversation, il peut détourner sa parole pour se concentrer sur un coucher de soleil ou bien sur un oiseau qui passe. Et il a gardé une sorte de naïveté, on pourrait dire, un peu enfantine. Alors qu'il a une vie très, très compliquée, il se déplace sur une chaise roulante, alors que sa maison est sise sur des pilotis. Au fin fond des bayous de Louisiane, on vit dans des maisons de bois qui sont posées sur des socles. Et donc, vous pouvez imaginer comment c'est compliqué. Il y a une rampe, en fait, pour qu'il arrive jusqu'à chez lui. Voilà, donc c'est un documentaire qui s'appelle « Un barrage contre le golfe du Mexique ». C'est un clin d'œil à Duras, évidemment, parce que j'ai toujours pensé que la Louisiane, c'était un peu le Cambodge, que le Mississippi, c'était le Mékong, et que Christophe Brunet, c'était l'amant de Marguerite Duras.
Eh bien, merci. Merci pour cet imaginaire. Merci de nous partager ces moments-là et puis surtout nous apporter justement des informations, des anecdotes. Alors, on ne se quitte pas, on se retrouve dans quelques minutes. Pour le moment, je laisse la voix à Wendy. À très vite.
Bonsoir, Wendy.
Bonsoir. Alors, moi, je vais vous présenter la poésie sonore d'Elina, initiée dans le cadre du workshop de poésie sonore par Michel Giraud. Une pièce enregistrée et une voix en direct qui n'attend que d'être écoutée. Un premier essai de direct enregistré. Bonne écoute.
Je m'écoute, tu t'écoutes, il s'écoute, nous écoutons, vous écoutez, il s'écoute. Je me suis écoutée,
je t'écoute, tu t'écoutes,
il s'écoute, nous écoutons,
vous écoutez,
vous êtes écoutée. Ils se sont écoutés.
Je m'écoute. Je m'écoute.
Ils m'écoutent.
Nous écoutons.
Vous m'écoutez.
Ils m'écoutent.
Ils se sont écoutés.
Je me suis écouté.
Je t'écoute.
Tu m'écoutes pas.
Ils t'écoutent.
Nous t'écoutons pas.
Vous t'écoutez.
Ils t'écoutent.
Ils se sont écoutés.
Je m'écoute.
Je m'écoute.
Tu m'écoutes.
Ils m'écoutent.
Nous écoutons.
Vous m'écoutez.
Ils m'écoutent.
Ils se sont écoutés.
Je m'écoute.
Tu t'écoutes.
Tu t'écoutes.
Je m'écoute. Écoutez-moi.
Society and its future. Theodore Kuczynski, 1995. Introduction. 1.
Its
consequences have been a disaster for the human race. They have greatly increased the life expectancy of those of us who live in a circumflex advanced
countries.
Societies have made life unfulfilling tasks and devoted activities have seen dramatically widespread technological and cultural
advancements.
Those who are suffering from the industrial revolution, 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 the industr
O de la destrucción de la naturaleza salvaje. A pesar de que consideramos que estos son altamente importantes punto o ejemplo, ya que hay muy desarrollada del medio ambiente y movimientos desierto, hemos escrito muy poco acerca de la degradación del medio ambiente o de la destrucción de la naturaleza salvaje. A pesar de que consideramos que estos son muy importantes.
Et voici, c'était une poésie numérique composée par Maxime Laguerre, tirée du manifeste de Ted Kaczki et interprétée par différents logiciels numériques. Cette pièce s'appelait « La société industrielle et son avenir ».
Et maintenant, une interprétation de Jimmy, de Moriarty, par Mathilde Fest.
So kind of wet. Jimbo, Jimmy, you better hold your nose. All road lead to road with the buffaloes. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. You gotta have a wash, but you can't clean your name. You're no cold Jimmy, you'll be Jimmy just the same. The key there in the bag, in a chair by the door. One of Jimmy's friends are taking the floor. Jimmy, won't you please come home? For the grass is green and the buffaloes roam. Dear home, Jimmy, forgot you young, but you can't ignore the buffalo song. And the buffaloes used to say, be proud of your name. The buffaloes used to say, be what you are. The buffaloes used to say, roam where you roam. The buffaloes used to say, do what you do. If you remember, you're unknown. Buffalo land would be your home. If you remember, you're unknown. Buffalo land would be your home. If you remember, you're unknown. Buffalo land would be your home. If you remember, you're unknown. Buffalo land will be your home.
Merci Mathilde. C'était Jimmy de Moriarty, reprise à la guitare et au chant.
Et maintenant, pour la toute première fois sur Radio On, ça, c'est Filarmo, Nick. Une BD radiophonique dont voici le premier épisode. Laissez-vous porter dans ces pages sonores.
Tu en as encore pour longtemps, Nick ?
Je termine pas.
Qu'est-ce qu'il fabrique ?
Il repeint son vieux tricycle pour l'offrir au petit du voisin, ma chérie.
Dans sa chambre ?
Ne t'inquiète pas, il travaille très proprement.
Chut !
Ça sent la peinture.
Eh bien, mais c'est normal, ma chérie, non ?
Il ne peut pas passer la nuit dans cette odeur. Nick ? Nick ?
Oui, maman.
Ouvre ta fenêtre, mon lapin.
Oui, oui, maman. Jamais je n'arriverai à faire disparaître ça.
Alors, mon chou, tu l'ouvres cette fenêtre ?
Oui, oui, maman.
Tu as déjà travaillé ton immeuble aujourd'hui?
J'allais justement m'y mettre.
Tu vas prendre ça au lit.
Oui.
Thank you.
Allez hop! Du vent! Tire-toi! Pas de saucisse!
Mon ami, votre sonnette a une mentalité de pignouf.
J'en suis vraiment désolé, monsieur. Monsieur?
Philarmo.
Nick! Je regrette pour ma sonnette, monsieur Philarmo. Elle n'aurait pas dû crier « pot de saucisse ».
N'en parlons plus. Et où filez-vous ainsi, à toute pédale ?
Le plancher de ma chambre est taché. Je dois tâcher de le détacher. C'est une tâche urgente et une fameuse tâche.
Je vous trouve très attachant et je vais vous aider, oui.
Oh, merci, monsieur Philarmo. La voilà, voilà ma chambre.
Ne faites pas attention, monsieur Philarmo. Ma chambre est très en désordre.
C'est une grande tâche, mais ce n'est pourtant pas grand-chose. À deux, nous la détacherons en 5 secs. Faites tout simplement comme moi.
Très bien, monsieur Philarmo.
Ces jeunes tâches, voyez-vous, on les roule facilement.
C'est bien vrai, monsieur Philarmo.
Et maintenant, ceci.
Vous ne le croirez peut-être pas, monsieur Philarmo, mais j'ignorais la présence de cette trappe dans ma chambre.
Ah, permettez-moi de citer Philippe-André Novo. Ma chambre est une porte ouverte sur un monde inconnu. Aidez-moi pour le tapis, voulez-vous ? Dont je suis chaque nuit l'explorateur émerveillé.
En tout cas, c'est bien pratique.
N'est-ce pas ?
Monsieur Philarmo, je ne sais comment vous remercier.
Ne me remerciez pas, mon jeune ami. Peut-être allez-vous pouvoir me rendre service à votre tour. Vous jouez de la flûte, je vois.
J'apprends, monsieur Philarmo.
Jouez ! Je vous accompagne.
Voilà.
Bravo.
Je me suis sentie transportée, monsieur Philarmo.
La grande musique élève l'âme.
Pas seulement l'âme, monsieur Philarmo.
Et Mozart transporte toujours. Vous avez fort bien joué, oui.
Merci, monsieur Philarmo. Merci vraiment.
Comptez-vous vous coucher tout de suite ?
Oh non, monsieur Philarmo. Je ne dors jamais quand je rêve.
Parfait. Parfait, mon jeune ami. J'aimerais vous entretenir d'un projet qui m'est cher. Mais quittons votre chambre. Nous parlerons en cours de route.
Monsieur Philarmo, je vous suis et je vous écoute.
Nous venons d'écouter les 12 premières pages de la BD « Ça, c'est Philarmo, Nick ». Une création radiophonique toute nouvelle sur Radio On qui se poursuivra à chaque nouvelle émission. Ainsi, ne loupez pas les épisodes et venez écouter votre BD.
10 minutes, oui camarade.
Ah, allô, allô ?
Oui, oui, ça y est. Vite, 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 deux minutes. Je vous donne un coup de clochette. Un coup de clochette.
Bonjour, monsieur Jimmy.
Ça va ? Voilà la clochette. Maintenant, je vous donne un petit coup de cloche byzantine. Église byzantine. Vous arrivez à l'enregistrer, là ?
Ah oui, oui, très bien. Oui, oui, on vous entend très bien, très bien là.
C'est magnifique, ces nouvelles technologies. Hein. C'est vraiment. Mais quand je reviendrai, on sera équipé net, très fort. Hein. On fera du streaming, visioconférence et tout. On en parlera tout à l'heure.
Bonjour Michel Giroux. Voilà. Est-ce que vous nous entendez bien ?
Pardon ?
Est-ce que vous nous entendez bien ?
Oui, j'entends très bien.
Bon, Michel Giroux, vous êtes actuellement à Nîmes. C'est vous qui avez animé le workshop Poésie sonore au Beaux-Arts du Mans.
Oui, la Poésie sonore au Beaux-Arts du Mans, oui.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous...
C'est la phrase pour tout le monde.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Quel était votre ressenti ? Est-ce que vous avez écouté la radio, déjà, ce début de radio ?
Mais non, je ne peux pas écouter parce que nous sommes en pleine action et je ne peux pas faire les deux en même temps. Parce qu'il aurait fallu qu'on mette la radio, mais sûrement je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait avec la radio en même temps. Ça pose d'autres conditions de travail. On n'est pas encore ici entraîné pour la multi-écoute en même temps. C'est un autre problème.
D'accord, il n'y a pas de souci.
Eh bien, si vous vouliez bien nous parler un petit peu peut-être du coup de ce workshop que vous êtes venu faire à l'école du Mans, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette confrontation avec les étudiants ?
J'ai dit à Philippe que ce workshop est une très bonne introduction, mais il fallait que je revienne d'urgence 5 jours pour passer au stade suivant, c'est-à-dire au délire, à la transe, quoi. C'était juste thérapique, juste un peu décoincer les étudiants. La plupart ont eu peur, sauf deux. Ils sont pas venus, j'ai pas écouté leur truc. Et voilà, le problème, c'est qu'il faut les décoincer. Donc ça demande une thérapie de 5 jours, avec des clochettes et tout. J'y joue, qu'on s'amuse, qu'on mange et tout. Voilà.
Très bien, Michel Giroux.
Voilà mon avis.
Vous êtes en public là ? On entend des voix derrière vous.
Bien sûr. Nous sommes en public là.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites actuellement ?
Ah ben là on finit une sorte de la première partie donc d'un exposé de ce que j'appelle la circonférence action, la circonvolution, le tourner boulet rouler boulet sans dessus dessous de coyote ou ouroboros, bon, des choses très compliquées mathématiquement, voilà. Et donc on rit beaucoup, donc ils économisent déjà des quelques heures de médecine, de médecin, voilà, parce qu'une heure de fou rire par jour ça vous fait rajeunir, hein, d'accord. Voilà. Nous sommes dans un zoo, hein. C'est au zoo, nous sommes au zoo. Ils ont parfaitement compris. Je pense qu'ils ont bien lu Guy Debord et nous sommes en fait zooifiés. Il vaut mieux se zooifier nous-mêmes qu'attendre qu'on nous mette dans un zoo. Puisqu'on met les animaux dans des zoos, mais nous, quand on met les animaux dans des zoos, nous sommes dans le zoo.
Eh bien, merci beaucoup, Michel Giroux. On vous souhaite une très très bonne soirée à Nîmes. Ce soir.
Et à bientôt pour vous, que je revienne vous sortir du zoo.
Pas de problème, avec plaisir. Et surtout, restez à l'écoute de Radio Orc.
Pas de problème. Hein, à très bientôt. Au revoir.
Au revoir, Michel Giroux.
Voilà,
merci.
C'est fini. Hop. Bon.
Tout de suite, une pièce de Luca Accari, qui s'essaye à la poésie sonore en nous proposant de prendre le temps de décomposer la phrase et le mot pour en faire durer le plaisir et en apprécier toutes ses subtilités.
Casse-toi. Qu'est-ce que je
Est-ce-je? Est-ce-je ne? Qu'est-ce-que je ne? Je ne? Je ne de? Qu'est-ce-que je ne dis? Qu'est-ce-que-tu? Que nous? De casque? Qu'est-ce-que-tu dis? Qu'est-ce-que-tu? Qu'est-ce-que-je-ne de? Que je ne? Qu'est-ce-que-je-ne-dis? Nous dit, dit, tout ne dit. Qu'est-ce, casque, qu'est-ce que, tout ne dit pas. Qu'est-ce que je ne, est-ce que, qu'est-ce que je ne, je dis, qu'est-ce que je dis, casque, qu'est-ce que je ne dis pas.
Alors c'était une pièce de Luca Acari, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, de le préciser tout à l'heure, mais c'est, voilà, c'était une pièce réalisée en live. Maintenant, nous allons passer à une nouvelle pièce sonore, une poésie sonore de Maxime, qui s'intitule « L'homme assis sur la petite table ». Cette pièce que vous allez écouter est une restitution performative en live réalisée durant le workshop Poésie sonore avec Michel Giroux.
Est-ce que j'ai toute votre attention ? Regardez cet homme assis sur cette petite table. Il regarde dehors et il ne dit rien, la bouche close, les bras croisés. Cet homme, il sent que quelque chose ne va pas, ça lui échappe, ça lui file entre les doigts. Pourquoi, pourquoi ne bouge-t-il pas? Ça gratte, ça démange, il faut gratter. Demandez aux médecins, ils vous diront que si vous retenez, ça peut être extrêmement nuisible. Est-ce que j'ai toute votre attention? Regardez cet homme qui reste sans bouger, immobile, la bouche close. Les bras croisés. Il écoute la petite musique sur son transistor, sur sa petite table, sur sa petite chaise, les mains posées sur sa petite tête. Il voit sa vie défiler devant ses yeux, son temps s'échapper entre ses mains. Est-ce que j'ai toute votre attention? L'esprit ne peut-il pas lutter? C'est certainement la solution. C'est cela, sûrement, sans nul doute, indubitablement. C'est ça et rien d'autre. Est-ce que j'ai toute votre attention? Regardez cet homme, cet animal humain, cette bête. Le temps à tort torsionnaire, tantôt là, tantôt fil, défile entre les doigts. Il part, il s'échappe, il s'évapore. Est-ce que j'ai toute votre attention? Il y a cette petite musique sur son transistor. Souvent, les petites gens veulent une petite chose très simple, mais cette petite chose, ils la veulent. Rien ne les détournera de leur idée. Ils se feraient tuer pour elles-mêmes. Quand on les aurait tués, même morts, ils la voudraient encore. Souvent, les petites gens veulent une petite chose très simple, mais cette petite chose, ils la veulent. Les petites gens veulent une petite chose. Rien ne les détournera de leur idée. Ils se feraient tuer pour elles. Est-ce que j'ai toute votre attention?
Eh bien, merci Maxime, c'était L'homme assis sur la petite table, une poésie sonore donc, suite à un workshop avec Michel Giroux.
Maintenant, on écoute Café, une composition évolutive de Jeanne Minier, basée sur 4 accords. Au piano, la mélodie est improvisée à chaque interprétation, en intégrant cependant une récurrence faisant office de refrain. Café, donc. Thank you.
C'était Café, composé et interprété par Jeanne Minier.
Et maintenant, une courte nouvelle, écrite et lue par Mathilde Fest.
Angus. C'était un chat comme les autres. Il n'avait pas beaucoup voyagé, seulement quelques allers-retours entre Paris et la province sans intérêt. Il n'avait pas rencontré beaucoup d'autres chats, ni beaucoup de chiens. Il n'était pas très beau, ni très doux, ni très jeune, ni très mignon. Il était de ces gros chats qu'on caresse sans y penser, par habitude. Il n'avait pas d'ennemis. Il ne connaissait pas grand monde. Et plus important que tout, il n'avait qu'un seul ami, Alfred. Alfred, lui, était un septuagénaire très facile à vivre. Angus l'avait adopté l'année de ses 2 ans. Alfred, lui, avait alors 59 ans. Ils s'étaient tout de suite bien entendus. Alfred ne parlait pas beaucoup, Angus non plus. Ils se comprenaient sans ressentir le besoin de tout formuler. Alfred n'avait jamais été marié, ce qui convenait parfaitement à Angus qui, vieux matou qu'il était, avait une opinion très définie des bonnes femmes. Elles prenaient toute la place, finies les soirées tranquilles sur les genoux d'Alfred à regarder Thalassa. Elles étaient jalouses, finies les nuits pelotonnées dans le lit d'Alfred. Et pour finir, elles n'aimaient pas les chats. Peu à peu, avec le temps, une routine s'était installée. Tous les matins, avant le lever du soleil, Angus se réveillait, faisait sa petite promenade matinale pour se dégourdir les pattes et retournait s'allonger en attendant le réveil d'Alfred. Alfred, quant à lui, se réveillait tous les matins, sans exception aucune, à 6h15. Il chaussait ses pantoufles, enfilait son peignoir et retrouvait Angus dans le salon où ils déjeunaient tous deux en silence. Pour Angus, un bol de lait tiède. Pour Alfred, une tasse de thé brûlant accompagnée d'une tartine de confiture. Quand ils avaient fini, Alfred se levait, s'étirait et se dirigeait vers la salle de bain, non sans avoir allumé la radio. Angus écoutait donc distraitement les nouvelles du jour, non sans oublier de faire sa toilette. Angus était un chat très propre. Quand Alfred sortait de la salle de bain, il était toujours 7h moins le quart. Alors, sans un mot, il allait dans la chambre s'habiller et, toujours sans un mot, il enfilait sa veste et sortait. Angus sur ses talons. C'était la même petite veste en mousseline, raccommodée au coude et un peu usée, qu'il portait depuis au moins 12 ans. Peut-être plus, mais avant ça, Angus ne le connaissait pas. La radio, quant à elle, était programmée pour s'éteindre tous les jours, sans exception aucune, à 7h10. C'est pourquoi, quand Angus passa le pas de la porte et qu'Alfred ferma derrière lui, elle se tut. Alfred habitait à Paris, au 3e étage d'un petit immeuble, somme toute confortable, et ce depuis 40 ans. Il était, et le disait avec fierté, le plus ancien locataire de cet immeuble du 20e arrondissement. Il avait vu, peu à peu, s'installer puis repartir, toutes sortes de personnes. Il y avait dans cet immeuble seulement 4 étages, et à chaque étage, 2 appartements. Oh, ce n'étaient pas de grands appartements, mais on y vivait bien. En appuyant sur le bouton de l'ascenseur, il réfléchissait. 4 étages, 2 appartements par étage, ça fait... environ 8 personnes à vivre dans cet immeuble. Sauf que au 2e et au rez-de-chaussée, il y a 2 couples mariés avec des enfants. Ah, il y a aussi un appartement inoccupé au 4e. Et puis ce petit gars qui habite sous les toits. Ting ! L'ascenseur arrive, ouvre ses portes. Personne dedans, très bien. Alfred n'aime pas quand il y a des gens dans l'ascenseur et qu'il est obligé de s'entasser avec eux dans la trop petite cabine. La porte ouverte, il la tient pour laisser entrer Angus. Le matou se poste au fond, contre le mur, comme d'habitude. « Pour ne gêner personne », lui a dit Alfred. « Rez-de-chaussée », indique le bouton qu'Alfred presse d'une main tremblante. « C'est l'âge », se dit-il. L'ascenseur commence sa descente, mais c'est trop tôt qu'il s'arrête. Alfred ne comprend pas, il réappuie sur le bouton, mais les portes s'ouvrent sur le premier étage. Alfred le sait, parce que c'est le seul étage où il y a des plantes en pot bien entretenues sur le palier. Une dame monte. Alfred ne l'a croisée que quelques fois, mais il sait qu'elle s'appelle Madeleine, Madeleine Duval. Il le sait parce que, la voyant prendre son courrier, il a ensuite regardé son nom sur la boîte à lettres comme un gamin. Avant de rentrer, elle lui sourit. Ses yeux sont gris et très beaux. Alfred disait toujours que les vieux, c'est moche. À commencer par lui. Mais quand Madeleine lui sourit, il rougit. Et pourtant, il n'a plus 15 ans. Il en a 73, et c'est ce qu'Angus se retient de lui faire remarquer. À cet instant précis, le matou sent que quelque chose est en train de se passer. Il regarde Alfred, son ami de toujours, qu'il a déjà oublié. il fixe cette vieille dame avec un sourire étrange, le rouge aux joues. Angus n'est pas triste. Il savait que ça arriverait un jour. Après tout, Alfred était un homme comme les autres.
C'était Angus, une courte histoire de chat, interprétée par Mathilde Fest en live.
Bonsoir, Frank Smith, vous venez juste d'arriver, je vous laisse prendre le temps.
Je pose ma soucoupe volante.
Allez-y, mettez le casque, on s'installe tranquillement, il y a des chips. Tout va bien ?
C'est super.
Merci d'être encore avec nous.
Merci, j'ai entendu des belles choses.
Merci de faire partie de ces belles ondes de Radion. Alors, j'avais une question. Cette fois-ci, vous êtes l'invité, cette fois-ci, c'est moi qui vous pose des questions. Cette fois-ci, vous répondez certes au micro, mais comment ça se fait quand on travaille pendant 10 ans à France Culture et puis d'un seul coup, on quitte France Culture ? Est-ce qu'on écoute encore France Culture ? Est-ce qu'on écoute encore la radio ? Et surtout, est-ce qu'on l'écoute de la même manière qu'avant ?
Well, bon, d'abord, je n'ai pas tout à fait quitté France Culture, puisque après l'atelier de création radiophonique, j'ai produit plusieurs documentaires et notamment une émission qui m'importe beaucoup puisque je l'ai conçue comme une sorte de manifeste, une émission dédiée à la poésie contemporaine qui risque de s'appeler toujours « La poésie n'est pas une solution ». Voilà. Donc évidemment, quand on fait de la radio, on en écoute. Quand on lit, on écrit. Quand on écrit, on lit. Tout ça, c'est la même activité.
Est-ce que vous écoutez d'autres stations de radio ?
Alors, il m'arrive d'écouter Art Radio, qui est une web radio new-yorkaise qui a la particularité de se centrer sur l'expérimentation sonore et artistique, donc sur le web. Et qui aussi produit des performances dans un lieu de type galerie du côté de Wall Street. Donc ça, j'écoute un petit peu. J'écoute Ubu aussi beaucoup, Ubu Web, qui a toute une panoplie de ressources sonores. Voilà. Et puis j'écoute beaucoup la radio d'information en général, France Info. Enfin.
Et justement, en parlant d'information, est-ce que vous vous tenez informé de ce qui se fait en termes de création, de documentaires ?
Oui, bah ça, j'ai toujours été assez
à l'écoute.
Curieux, à l'écoute, coûte, et très aux aguets, en fait. Donc, bon, ça, j'y peux rien, je suis comme ça. Voilà. Mais pas seulement pour le son.
Curieux, par nature ?
Ouais.
Et justement, vous n'êtes pas sans savoir que le thème de cette émission, c'est voxifération, on va parler de la voix. C'est quelque chose qui ne vous est pas inconnu ?
Bah. Non, puisque sur ces deux pôles qu'on pourrait nommer ainsi, l'écriture d'un côté et puis la création sonore de l'autre, évidemment, le point de convergence, c'est la voix, et c'est ça qui m'intéresse d'aller faire porter, d'aller capturer, d'aller faire entendre, d'aller faire écouter la voix des sans-voix, la voix des sans-paroles, pour ce qui est de la radio, et puis la voix des figures, pour ce qui est de l'écriture.
Des figures, justement, vous en parlez ce matin lors de la conférence, si on peut donner ce terme-là au fait que vous avez parlé pendant une bonne heure de votre travail. Et justement, vous parliez des figures, du fait d'un seul coup de pouvoir poser des mots, des termes sur certaines choses, du moins, vous vous questionnez aussi sur ce qu'il en est, sur...
La question de la figure, je la prends chez Gilles Deleuze dans un texte où il analyse, où il propose un champ d'analyse de l'œuvre de Francis Bacon qui s'appelle « Logique de la sensation ». Et donc, la figure, c'est un corps de sensations, un corps avec une tête accrochée, tête dans laquelle il n'y a plus de visage, un visage défait, tête accrochée à un corps et un corps de type viande, un corps de type vaisseau, artère, organe ou sans organe. Et l'idée, c'est de capturer ces figures en opposition à l'art figuratif. Donc quand je poserai un chevalet dans un champ pour dessiner des coquelicots ou bien pour dessiner ma belle-mère, contre l'art figuratif et contre l'art narratif pour ce qui est de la question littéraire. Donc capter des figures, c'est capter des forces dans un corps de type viande. Et Bacon vivait à côté d'abattoirs. Et il s'agit effectivement d'aller les capturer, de les poser dans ce qu'elles sont en tant que sensation. Donc, et tout ça converge, je raccroche ça à la voix, tout ça converge vers la bouche en fait. Il y a cette œuvre de Bacon qui s'appelle Le Pape Innocent X, où on voit le pape ramifié dans son propre corps avec un visage complètement défait, quasi absent, quasi invisible, mais avec une bouche ouverte comme un O, bouche à partir de laquelle tout le corps va fuir. Et bon, voilà, c'est ce qui m'intéresse d'aller capturer en fait, tant au niveau du sonore que de l'écriture, c'est effectivement identifier des figures, alors des figures à travers leurs paroles qu'elles ont à faire porter, des témoignages. On parlait du « on » en début d'émission, je trouvais que enfin voilà, c'est un outil important pour moi que d'utiliser ce « on » puisqu'il voilà, il est un des outils qui me permet de refuser, d'annihiler l'axe figuratif au profit de la figure, au profit de la sensation.
En arrivant ici au Mans, vous êtes venu accompagné d'une pépite sonore, on pourrait appeler cela comme ça, une voix que vous aimeriez nous faire entendre. Est-ce que vous préférez en parler en amont ou qu'on l'écoute ?
On va l'écouter.
Ok, on l'écoute.
Not if you really care for me, stay, little Valentine, stay. Valentine's Day.
C'est agréable d'écouter ça. Il est juste 22h, on est avec Chet Baker et puis on est surtout avec vous, Frank Smith. Alors justement, pouvez-vous nous parler de cela, de... Alors le moment, on le rappelle, il joue, ensuite le public applaudit, voilà le petit extrait qu'on a entendu, et puis il se met à chanter.
Alors, c'est plus qu'agréable, c'est pour moi la voix. J'ai amené cette voix avec moi, j'étais contente de l'emmener ce matin en train, puisque l'émission s'appelait Voxifération, et quand il a été question d'être invité sur ce plateau, je me suis demandé, mais quelle était la voix pour accrocher à ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, la voix figurale type et non pas figurative. Et j'ai tout de suite pensé à Chet Baker. Ce qui est hallucinant, c'est que c'est son dernier concert. Il meurt 2 semaines après. Le concert a lieu à Hanovre, en Allemagne. On est le 28 avril 1988. Il termine son concert par My Funny Valentine, qui est donc aussi la chanson avec laquelle il a commencé le concert. Il la reprend et donc le public applaudit. Là, l'extrait qu'on a entendu commence à la fin des applaudissements. Ce morceau est uniquement joué à la trompette et il le reprend à la voix. Et je trouve cette voix... Enfin, je n'ai plus de voix pour dire comment cette voix me touche, puisqu'on n'entend même plus ce qu'il dit. Les mots ne sont plus identifiables. Alors c'est frappant de savoir que 2 semaines après, il ne survit pas peut-être à ce chant. Voilà, je ne vais pas employer de grands mots, mais c'est pour moi c'est la voix par-dessus tout. Ce n'est pas du tout Frank Sinatra, pour moi la voix, c'est Chet Baker dans le résidu du corps qu'il était, c'est-à-dire un corps annihilé par l'alcool, la drogue, le sexe. Et c'est frappant de voir son visage quand il a 25 ans et voilà, à la veille de sa mort. Il est complètement défait, mais cette voix, cette voix me touche.
Merci Frank Smith. Merci d'avoir donné de la voix, justement, ce soir, d'avoir été à nos côtés. Tout de suite, nous écoutons la pièce de Lou.
Merci beaucoup.
Ouch, C-E-A, tu vois, Wabondazitene. Ah merde, mais ils sont partis. Tate, Adèle, attends, et oh, Makezitene, aïe, vas-y, monte dans, salut, au revoir. Que... Ouah, étant les ouais, pas si, et hop. Bah oui, je trouve, oui, ouais, toujours. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Il faut aller plus vite. Fallait que soufflet drastique, mais putain, pour l'instant, bon, bah voilà, mais oh, ah, bon, ben, vas-y, monte, attends, et oh, voilà, hop. Bon, ben, merci, au revoir.
C'était une pièce de Lou. Merci à tous pour cette émission. Merci à Tanguy, à Thomas, en régie. Merci à
Henri Michel. Merci surtout à Frank Smith pour sa présence. Et
merci à Frank Smith.
Merci à vous, merci d'avoir pensé à moi.
Merci à toute l'équipe.
À Perrine également de nous avoir permis de participer pour la première fois à une émission de radio. Mm-hmm. C'est quand même quelque chose.
Merci donc à Philippe Langlois aussi.
Philippe Langlois, oui.
Langlois. Et puis merci à vous deux, chers animateurs, même ouais, vous trois. Wendy, Lucas et Mathilde. Bonne soirée, chers auditeurs, et on se retrouve dans un mois.
Bonne soirée à tous.